Radio Capi, grand témoin.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Grand Témoin, ce magazine qui retrace le parcours des différentes personnalités témoins de l'histoire du Congo. Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui le professeur Bungi Shabako Kato, recteur honoraire de l'université Shalom de Bounia. Jody Daniel Kachama au micro, Dieudonné Nyangasa à la mise en onde. Bienvenue à tous. Bien, encore une fois, ravi de vous retrouver dans cette émission Grand Témoin qui vous présente des personnalités qui ont marqué l'histoire du Congo, chacun dans son domaine. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir le professeur Bungi Shabako Kato. Professeur, bonjour.
Bonjour.
Qui est le professeur Bungi Shabako?
Merci, c'est un grand plaisir d'être invité aujourd'hui dans ce studio et pour cette émission spéciale. Je m'appelle Bungi Shabako Kato. Bungi Shabako, c'est un nom déformé. Mon père m'a donné Bungi Shabako. C'était ça le nom que mon père m'a donné.
Et qui voulait dire quoi? Et
ça veut dire celui qui aide les autres. Okay. C'est un peu, ma langue est très proche de Lingala, un peu comme Bongisa Yabato. Le fait est que quand je suis né, mon père qui était orphelin a perdu tous ses biens, tous les biens qu'il allait hériter. Et puis, c'était une lamentation pour dire, maintenant que j'ai tout perdu, qui va m'aider à élever ces garçons? Alors, il s'est dit, Nabongisa Kayabato, dans ma langue, donc Bongisa Bako. Alors, quand je suis allé à l'école primaire, en première année, mon enseignant de première année primaire avait son fils qui s'appelait Bungi Shabako. Alors, il a changé Bungi Shabako à Bungi Shabako. C'est comme ça que mon nom a été changé. Et mais j'aime Bungi Shabako.
Bungi Shabako. Et qu'est-ce que ça signifie?
Ça, un peu le sens contraire, comme pour dire celui qui perd les biens des autres. Mais en vérité, ce qui est collé à moi, c'est le nom de mon père, Bungi Shabako, celui qui aide les autres. Et je vois cela dans ma vie de tous les jours.
D'accord, ça c'est une belle histoire. Alors, parlez-nous de votre enfance, professeur.
Je suis né à Irumu. Et ce qui est intéressant, quand je naissais, mon père avait 53 ans. Donc, je suis pratiquement l'enfant de la vieillesse.
Okay. Pour vous dire le cadet ou
l'avant-dernier.
L'avant-dernier.
L'avant-dernier. Le dernier est décédé en 2004. Mais au moins, j'étais l'avant-dernier.
Et au total, une famille de combien d'enfants?
Une famille de 9 enfants.
Okay.
Mais nous sommes restés 4. C'est que mon père avait perdu sa première femme. Et puis, il a pris ma femme un peu à retard. Et c'est comme ça que je suis
votre
né.
Mère?
Ma mère, bien oui, sûr. Oui. Ouais, c'est comme ça que je suis né à retard dans la vie de mon père, bien sûr.
Il avait 50 ans déjà.
Il avait 53 ans déjà.
53 ans.
Oui, cela a beaucoup joué sur mon éducation, sur ma vie. Puisque vous voyez la vie du village, quand j'avais 17 ans, lui, il avait déjà 70 ans. Et 70 ans au village, c'est déjà un vieillard qui ne pouvait pas correctement prendre soin de son fils. Ça a un peu affecté ma vie. Mais je suis ce que je suis, grâce à Dieu.
Est-ce que vous avez des souvenirs, des choses, par exemple, qui vous ont beaucoup marqué dans votre enfance? Des bons, comme tout comme des mauvais souvenirs?
Des bons, c'est l'affection que j'avais pour ma mère. Et que ma mère était jeune par rapport à mon papa. Et nous étions devenus des grands amis. Mon père, déjà quand j'avais 15, 16, 17, mon père était très maladif. Alors, la responsabilité de la famille m'incombait presque. J'ai un grand frère, il était déjà parti. Alors, je devrais être avec ma mère au champ tous les jours après l'école, à l'école primaire. Je vais l'aider. Je me suis senti responsable dès l'enfance. Et cela affectait ma mère en sorte que ma mère m'appelait son mari. Affectueusement au village.
Il avait beaucoup d'amour pour
moi. Il avait beaucoup d'amour pour moi. Malheureusement pour moi, elle est morte très vite. Quand j'étais en deuxième graduat, en troisième, il a piqué une crise. cardiovasculaire quand j'étais en première année de graduat. Ça m'a beaucoup affecté puisque je me disais, j'ai pas envie de me marier, je vais m'occuper de ma mère qui a beaucoup souffert pour moi. Malheureusement, elle est morte très tôt. Ça m'a beaucoup, beaucoup affecté. Il y a eu une interruption. Quand j'ai fini le graduat à l'ISP Bounia, à notre époque, la licence était à Bukavu. Alors j'ai dû interrompre pendant une année juste pour pleurer ma mère. Et puis après cela, je suis allé pour la licence pour le deuxième cycle.
Une autre question, parlez-nous maintenant de votre vie familiale. Est-ce que vous êtes marié, père de combien d'enfants et comment vous menez votre vie familiale?
Oh, je suis marié depuis janvier 91 et j'ai 4 filles. Elles sont presque toutes parties. Elles ont fini leurs études. L'aînée à Kinshasa, elle est médecin. La deuxième travaille ici à Bounia. La troisième, présentement, elle est en Hollande. Elle fait son stage. Elle veut faire le business. Elle est allée pour un stage. Et puis la quatrième est à Kampala aux études. Alors voilà un peu. J'ai 4 enfants, mais je crois que j'ai une famille de peut-être 12 enfants. Les enfants, il y en a toujours. Et ma femme me dit qu'elle ne saura pas vivre sans enfants.
Sans
chaque
enfant.
Fois que les nôtres partent, elle récupère beaucoup d'autres qui viennent vivre avec nous.
Okay.
J'ai une maison pleine.
Pleine d'enfants. Vous adoptez les enfants à gauche à droite? Comment vous faites?
On en a adopté 2 officiellement, mais tout le reste ils viennent pour, comme je n'ai que de filles, c'est là, pour la plupart ce sont des filles, elles viennent passer 4 ans, terminent les écoles, les études secondaires, elles partent, les autres arrivent, ainsi de suite.
Professeur, qu'est-ce que la famille représente pour vous?
La famille représente beaucoup, même si ma femme et beaucoup d'amis me disent que j'ai un peu de difficultés à cause de ma vie professionnelle. Je partage entre ma famille et mes recherches, ma lecture. J'aime trop lire quelquefois. J'aime beaucoup des temps privés à côté en train de lire, mais la famille représente beaucoup pour moi. Le temps le plus précieux dans ma famille, c'est le soir quand on a mangé. On reste ensemble. Je pose la question autour de la table.
Comment était la journée?
Il y a des enfants qui aiment manger très vite. Je leur dis non, mange lentement, on se parle, on s'amuse.
Voilà.
Et c'est toujours moi qui mène les jeux puisque je veux que tout le monde puisse rire. Ça, c'est le moment le plus riche dans ma famille. Et aussi, j'ai un champ. J'ai acheté une portion de terre, 10 hectares, là où je fais l'élevage. À peu près 120 porcs, 126, je crois. J'ai planté des cacao et le reste. Alors, souvent, le week-end, je prends ma femme, on va là-bas au champ, juste pour avoir un temps avec nous, en deux, pour évaluer un peu, parler de chaque enfant, de notre vie. Et ça, c'est ce que j'aime en famille, bien sûr.
Et ça raffermit les liens, ça vous rapproche davantage?
Ça nous rapproche beaucoup, et surtout, ça me fait découvrir aussi ma faiblesse, puisque je fais un effort pour vivre en famille. Autrement, ma vie professionnelle, j'ai des exposés partout. Demain, je voyage. J'ai 4 exposés dans une conférence à Kampala, ainsi de suite. Et c'est ça ma vie de tous les jours. Je reviens de là, j'ai une autre conférence à l'ISP Bounia. Donc, ça, c'est une vie très, très occupée.
Oui.
Alors, on doit faire attention avec ça, bien sûr.
Professeur, parlez-nous maintenant de votre cursus scolaire.
Alors, je l'ai dit, j'ai commencé mes études primaires à Irumu. J'ai l'impression que l'école a changé. Ça s'appelait école primaire à Kisanza. C'était chez les catholiques.
À Kisanza veut dire quoi?
À Kisanza, Akibira signifie celui qui est intelligent. Ouais. Alors, à l'école primaire, il n'y avait pas beaucoup de soucis, mais c'est plutôt quand j'ai commencé l'école secondaire à l'Institut d'Irumu. Nous étions de la première promotion de la section littéraire. C'est l'école qui fonctionne aujourd'hui à Nyakunde. L'école a été déplacée. Alors, j'ai passé 4 ans à l'école secondaire à Irumu. Ce qui est de là, je devrais aller à l'IDAP, à l'ISP, ici à Bounia. C'était ma première expérience difficile. je venais du village, j'étais très pauvre, très pauvre. Et j'ai choisi, j'avais cette ambition-là de toujours choisir le meilleur. Mais quelquefois, on se rendait compte que ce n'était pas ma place à cause de ma situation familiale. Mmh. Peut-être pour reculer un tout petit peu, je vous raconte un incident qui est arrivé et que je n'ai jamais oublié. Mmh. Je crois que ça s'est passé en 1978 ou 77. J'étais, je crois, en deuxième année secondaire. On m'a chassé de l'école parce qu'il y avait une dette. Et à cette époque-là, on ne payait pas beaucoup le Minerval.
Oui. Et mon parents n'avaient pas
les parents n'avaient pas de non, n'avaient pas tout payé. Et puis mon père me répétait chaque jour, il n'a jamais été à l'école mon père, mais il me répétait chaque jour, va à l'école, ne t'absente jamais, je ne veux pas que tu sois comme moi, je veux que tu changes ta vie. Je vis une vie très difficile parce que je n'ai pas étudié, mais je veux que toi tu étudies même si je n'ai pas les moyens. Alors comme un jour on me chasse parce qu'il y a une dette. Je rentre à la maison, mon père me demande qu'est-ce qui ne va pas. J'ai dit, on m'a chassé, j'ai des dettes. Malheureusement, ni moi, ni mon père, personne ne savait c'était combien. Alors, très tôt le matin, mon père me réveille et il me dit, tu prends cette chèvre-là, tu vas les payer. Et si ça ne suffit
payer
pas...
Payer en nature.
En nature. Si ça ne couvre pas la dette, tu reviens et je vais ajouter une autre.
Est-ce qu'à l'époque, l'école acceptait le paiement en nature?
Non, l'école n'acceptait pas le paiement en nature. Mais mon père m'a encouragé. Et j'étais déterminé à étudier, à aller plaider auprès du préfet pour qu'il me laisse étudier, que je paye en nature. J'arrive très tôt le matin chez le préfet. Sa femme était dehors. Sa femme fait signe à son mari. Et le mari me demande qu'est-ce qu'il y a. Je lui explique. Il me dit, attache la chèvre là. Alors, j'ai étudié, il m'a laissé entrer. À la dernière heure, j'ai reçu une invitation du préfet dans son bureau. Et là, il me remet une enveloppe. Il me dit effectivement, la dette qui était restée, c'était une très petite somme d'argent. Ce n'était même pas beaucoup. Alors lui, voyant la bonne volonté de mon père, il a préféré acheter la chèvre. Et il m'a remis la différence. Wow. Pour aller remettre à mon papa. Alors, mon père était si content ce jour-là, je l'ai vu sourire. Je ne voyais pas ça souvent. Alors, pour dire, il n'y a plus de dettes, on a payé, il y a même la différence.
La différence,
oui. Oui, alors, ça me rappelle justement d'où je viens, combien c'était difficile. Mais aussi un papa affaibli par le poids de l'âge, mais puis aussi pauvre, mais déterminé à voir son fils étudier et à se développer. Alors, de là, j'ai fini à Irumu, quatrième année secondaire littéraire. On n'a pas ouvert la cinquième année puisqu'on n'avait pas d'enseignants qualifiés. Je suis venu à l'IDAP. Et une autre histoire difficile qui commence. Je n'avais pas de chaussures noires. Et je ne savais pas.
Et là-bas, c'était l'exigence.
À l'IDAP, il y a un sac, il y a la chemise, une chemise blanche, un pantalon bleu avec des chaussures noires. Je n'en avais pas. Deux fois, on m'a chassé. Le préfet lui-même se tenait à la porte. Et puis, j'ai pu attraper une paire de chaussures. Et puis, je perds ma chemise, une seule chemise blanche, déchirée. Je ne pouvais pas entrer. Et c'est mon surveillant qui m'aimait beaucoup parce que j'étais intelligent, j'étais calme et sérieux. Chaque fois que je venais, il m'a indiqué une place pour aller me cacher sous les arbres, les eucalyptus qui se trouvent à l'IDAP, pour ceux qui le savent. Et quand le préfet termine à contrôler à l'entrée, il entre dans son bureau, le surveillant va aller me prendre.
Pour retourner en classe.
Et c'était bien difficile. Ça m'a pris, je crois, 3 semaines et demie pour que je puisse m'acheter. Je crois que quelqu'un m'a donné une chemise blanche pour continuer avec mes études. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'étais toujours le premier de la classe. Et c'est ce qui m'a encouragé. Alors, au lieu de me distraire ou de me décourager, et toute cette difficulté m'a encouragé.
Ça vous motivait à...
me motiver. Oui. Oui, c'est un peu dans ce sens. Et j'ai fini à l'IDAP.
Toujours en lettres, vous avez fait les lettres.
Oui, oui. Alors, on a fini les examens d'État, je crois un samedi ou un jeudi, j'ai oublié, ça fait très longtemps. Deux jours après, j'ai suivi mes grands frères, les aînés, dans la forêt pour aller creuser de l'or. Je voulais continuer à étudier à l'ISP, mais je savais que je n'ai personne pour m'aider. Mais je me suis dit, je vais aller creuser des lames.
Et vous êtes retourné à Irumu ou bien?
Je suis retourné à Irumu. Okay. J'ai passé quelques jours avec mes parents et puis je suivis mes aînés dans la forêt pour creuser des lames. Alors, je me suis jeté dedans, j'ai commencé à travailler.
Mais comment c'était? Est-ce que c'est facile?
Ce n'est pas très facile, mais j'étais habitué à faire des travaux difficiles, à cultiver. Et ce n'était pas quelque chose d'impossible pour moi. Alors, et puis, au mois de septembre, arrive la proclamation des examens d'État. On revenait des trous d'or le soir. Il y avait une seule radio à Bounia,
oui.
Candip.
À l'époque.
À l'époque. Et on annonce qu'aujourd'hui, c'est la proclamation des résultats des examens d'État, édition 1983.
Et Candip était capté même jusqu'à là-bas.
Jusqu'à là, oui. Okay. Et on commence, c'était dans la forêt, même pas Irumu, vers Yedi. C'est loin d'ici. Alors, on commence par la section littéraire. Et puis, on commence par l'IDAP ISP Bounia, c'est mon école. Et puis, on commence par mon nom. Comme ça commence par B.
Wow.
Alors, tous les camps, les orpailleurs, tout le monde était à l'IES, était en fait que, ouais. Pour eux, j'étais le premier de toute la province, de tous les districts. Mais en vérité, ce n'était pas ça.
Ouais.
Et puis, ils m'ont demandé, ils ont organisé des fêtes, des amis avec qui on creusait de l'or. Ils m'ont demandé si je voulais des whisky et ainsi de suite. J'ai dit non. Si vous avez des petites contributions à me donner, je voudrais aller étudier. Mmh. Ils m'ont fait des petites contributions. Ça a fait, je crois, 2 ou 3 grammes. Avec ce que j'avais déjà réuni, 9 grammes, ça fait 12 grammes. 2 jours après, je suis sorti pour aller m'inscrire à l'ISP. C'est comme ça que j'ai commencé mes études. Avec beaucoup de difficultés, mais j'ai dû persévérer jusqu'à arriver à la fin.
Alors, et à l'ISP, là, c'est déjà au niveau supérieur.
Au niveau supérieur.
Qu'est-ce que vous avez fait comme faculté?
J'ai fait le français, linguistique africaine. Mon professeur de latin voulait que je fasse le français latin, mais il m'avait puni une fois parce que j'avais très bien fait mon devoir. Lui, il a pensé que j'avais copié quelque part. Alors, il m'a sanctionné et il m'a laissé une semaine à l'extérieur. Depuis ce jour-là, je n'ai plus aimé le latin comme je le voulais. Alors, je me suis inscrit en histoire.
Il avait pensé que vous avez triché?
Oui, il avait pensé que j'avais triché, mais je n'avais pas triché en vérité. Alors, je suis allé voir le préfet pour lui expliquer que je n'ai pas triché. Le préfet m'a dit, je suis fier de toi, si tu n'as pas triché, tu es finaliste, donne-toi une semaine, tu vas rentrer en classe, il n'y a pas de problème. Je crois que c'était un professeur qu'on craignait beaucoup. Alors, maintenant je termine le secondaire, avec ce mauvais souvenir de mon professeur de latin, j'ai dit, je m'inscris en histoire. Et je reviens de l'ISP, de service des inscriptions, je le croise en route. Il m'a dit, félicitations, et tu viens de l'ISP? J'ai dit oui. Et tu as pris ton inscription en français, latin? J'ai dit non, en histoire. Alors, il était un peu, il m'a tenu par la main, il m'a remis à l'ISP, avec lui. J'ai dit, on l'inscrit en français, latin.
Le même professeur qui vous avait puni?
Et le même professeur, okay. Oui. Alors, le jour suivant, je me suis tué.
C'était un Congolais ou un Belge?
Un Congolais. Le jour suivant, il s'appelait Yembayani. Je n'ai pas de ses nouvelles. Je crois qu'il peut encore être vivant. Le jour suivant, je suis rentré au service des inscriptions. Je dis, je prends le français, mais pas le latin. Je prends le français et linguistique africaine. C'est comme ça que j'ai fait le français et linguistique africaine. Et 3 ans après, j'ai terminé, et comme je l'ai dit, avec une interruption d'une année pour faire le deuil de ma mère, et puis je suis allé à l'ISP Bukavu pour la licence. Alors, j'ai fini la licence, suis rentré à Nyakounde, c'est à quelques 40 kilomètres d'ici, j'ai enseigné pendant quatre ans, et de là, je me suis dit, je vais continuer avec mes études, je suis allé à Nairobi, j'ai préparé 2 maîtrises, et de Nairobi, j'ai eu un bon samaritain qui m'a dit, tu continues avec tes études. Je suis allé en Afrique du Sud pour mon PhD, donc pour mon doctorat.
Toujours là, les 2 maîtrises, c'était dans quel... Toujours en lettres?
Ah, ok. Ça, c'est une belle histoire. Non, ce n'est plus en lettres. À partir de là, j'ai changé. Je suis devenu évangéliste.
Ok.
J'ai commencé à faire la théologie. J'ai fait ce qu'on appelle la maîtrise en divinité. Ça prend 3 ans. Et après, À la fin de la maîtrise en divinité, pendant une session de délibération, il y a un Américain, un professeur américain qui m'a enseigné trois cours, les trois cours que j'ai beaucoup aimés. Alors, pendant la délibération, il a fait une remarque qu'il venait d'enseigner pendant 27 ans, mais qu'il n'a jamais trouvé un étudiant si brillant. Pourquoi vous les laissez rentrer? Alors, tout le monde lui a dit, celui-là n'a pas d'argent, comment il sera payé? Il a dit, non, je paye pour lui. Alors, il a payé pour moi la deuxième maîtrise. C'est une spécialisation encore en maîtrise en théologie. Là, je me suis dit, je prends l'Ancien Testament puisque j'aimais le prophète. Et le prophète, c'est un peu avec ce que je fais aujourd'hui. Mmh. J'aime l'intervention des prophètes dans la société et je me suis spécialisé en cela. Donc, j'ai pris la deuxième maîtrise. Quand j'ai fini, c'est le même professeur qui m'a dit, si tu veux, tu peux continuer avec tes études, je paye pour toi. Et il a payé pour moi.
Le PhD.
Le PhD.
Toujours en théologie.
En théologie, oui.
Alors, comment expliquez-vous ce passage de la linguistique, des lettres, tout ça, à la linguistique africaine, à la théologie? Comment expliquez-vous ce changement?
Alors, parce qu'il y a eu un changement dans ma vie. Je pense qu'à un moment donné, particulièrement au niveau de la licence, j'ai relâché un tout petit peu, loin de mon père, mon père qui m'encourageait chaque jour. Je plonge dans une vie un peu du chaos et du désordre. Alors, ce sont les amis qui priaient beaucoup dans l'aumônerie et ainsi de suite qui sont venus me voir. Et puis, bon, ils se sont parlé entre eux. Ça, c'est un garçon très intelligent, mais la voix qu'il a choisi
n'est pas la bonne.
Actuellement n'est pas la bonne. Mm. Ils ont commencé à me parler de Jésus-Christ, ainsi de suite, de la vie éternelle. J'ai dit, ok, alors je décide, je donne ma vie à Jésus, je mets ma vie en ordre. C'est comme ça que tout a basculé à partir de ce jour-là. Et la bonne nouvelle est que la personne qui a persisté pour me parler de Jésus-Christ, de la Bible, c'était une dame qui va devenir plus tard mon épouse. Alors, c'est...
Wow.
Oui. Alors, oui, elle va.
Et comment elle s'est retrouvée dans votre sillage?
Voilà. Alors, on ne se connaissait pas, on s'est retrouvés à Bukavu. Et puis, c'est dans une réunion de ressortissants de la province orientale. C'est comme ça qu'on appelait. Mm. Alors, il y a une amie avec qui j'ai étudié ici à l'ISP Bounia, qui m'a présenté auprès d'elle. Et puis, cette amie a soufflé à... lui a soufflé et dit, écoutez, voici un garçon très intelligent, mais dont la vie n'est pas correcte. Il faudra l'aider. Alors, ils ont commencé à prier, ils ont commencé à m'approcher, à me parler. Beaucoup d'autres sont découragés, mais elle a persisté jusqu'à me voir prendre une grande décision pour changer toute ma vie. Mmh. Et puis, c'était ça. Et on s'est séparés. Et puis c'est après, on a renoué, et puis on est devenus des amis, des fiancés, et puis on s'est mariés.
Professeur, dites-moi, vous aimez la musique? Vous aimez beaucoup la musique? Quel était à l'époque le titre ou le disque qui vous plaisait, ou l'artiste qui vous plaisait beaucoup?
Oh, ça c'est une belle question. Alors, quand j'étais à l'ISP, je représentais un artiste musicien à... et mené à Joe Kester.
Joe Kester.
J'ai oublié même son... C'était quoi, son orchestre?
Non, c'est pas Vive à la musique.
Non, j'ai oublié. Oui. Mais au moins, lui, Joe Kester. Alors, il y a une musique.
Jean, c'était quoi l'orchestre de mené, hein? Victoria et Leïsson.
Victoria et Leïsson. Alors, voilà. Je représentais à l'ISP Bounia Victoria et Leïsson. Je me coiffais un peu comme Kester.
Comme Kester, à l'époque.
Oui, voilà, un peu. Oui, le monde, ça, c'est une des chansons, du moins. Mm-hmm. J'aimais toutes les chansons de Menéa, mais particulièrement Oui, le monde et le reste.
Ouais.
Alors, je n'ai plus... Vous me rappelez une très vieille histoire. Je n'ai plus jamais pensé à cela.
Oui, le monde, ça c'était votre chanson préférée.
Ça c'était ma chanson préférée, ça fait très longtemps.
Et qu'est-ce qu'il disait dans cette chanson?
Bon, je crois que c'est une chanson d'amour. Et puis j'ai oublié même le contenu, mais au moins le nom m'est revenu spontanément quand vous me parlez de ma vie et passée.
Napona. Oh, Wilona. Yo, 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 Wilona. Yo, 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 Wilona. Oyongana linga, oyongana pona. Sherizonga bolingwango, papi akau. Yeah, 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 yeah. Sherizonga bolingwango, papi akau. Yeah, yeah. Wilo mokolo to solo la kina yo Isa kinga malade o papa Zoto ya kolinga o papa Bolingo igani Zambi bolingo ya mako silate Zambi waboka si o zambi Isa ngana ye o mondo To vivre tili
La lokola bolingo ya emenea na adija na kisasa
Wilo mokolo to solo la kina yo Pesa kinga malade o papa Nzoto ya kole na o papa Bolingo he ganye Zambe bolingo yangwe kwa silate Zambe waboka siyo nzambe Beni sangana yeo mondo ye To vivre tiwa Je veux vivre avec Ewilo Je veux vivre avec mondo Je veux vivre avec Ewilo Ah papi Soki nazala ki mwana roi Oh nazabwa mengwa papa Napata na mabako ya Wilo Mondo
Wilo Mondo
Yeah, yeah, yeah,
oh.
Yeah.
Soki nazala ki leka ministre Oh nazabwa mengwa papa Napata na mabako ya Dijana nga
Zalaki mwana wa Oh na zakwa mwa papa Na pesa na mabako ya dijana na
Business français
Yeah, 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 oh
Tende chame
Soki na zalaki leka ministre Oh na zakwa mwa papa Na pesa na mabako ya liyebena na
Mika sefi
Yeah, yeah, yeah,
oh
Vous venez d'écouter la chanson Wilo Mondo de Kester Emenea. Je crois que c'était un tube de 1985. Alors, professeur, qu'est-ce que ça vous rappelle, par exemple?
Oh, écoute, ça me rappelle l'enfance, il y a 37 ans peut-être, depuis que je suis vie.
Oui.
Oui, c'est quand vous m'avez demandé même le contenu, j'ai oublié. Mmh. Mais au moins, ce titre est resté. Parce que on aimait s'amuser, on était des enfants, 20 ans, 21 ans, c'était à cette époque-là. Ça me rappelle.
Beaucoup de souvenirs.
Beaucoup de souvenirs, cette belle époque où il n'y avait pas tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et quand on dit, on était ensemble, on dansait ensemble, on s'amusait ensemble, c'était réellement ensemble. Il n'y avait pas tout ce que nous sommes en train de connaître ces derniers jours ici en Ituri.
Vous écoutez Radio Okapi, c'est l'émission Grand Témoin qui reçoit le professeur Bungi Shabaka Okato, recteur honoraire de l'université Shalom de Bounia. Vous êtes enseignant, vous êtes pasteur, en fait vous avez plusieurs casquettes. Alors on va parler de ces différentes casquettes. D'abord, en tant que pasteur, dites-nous comment vous vous êtes retrouvé là-bas et comment vous avez évolué jusqu'à ces jours.
C'est peut-être la partie la plus difficile, la pastorale, dans un contexte de conflit, dans un contexte de méfiance, et dans un contexte de pauvreté. Je suis revenu, premièrement j'étais en Afrique du Sud à 2001-2002, début 2003, et il y avait la guerre. Je crois 90% de la ville de Bounia était évacuée.
Quand il y avait le conflit de Nouéma.
Exact. Alors, ma femme et mes enfants étaient évacués aussi parce que je suis allé en Afrique du Sud seul. Je me dis, la famille reste, j'ai eu quelqu'un qui m'aidait. Je passais trois à quatre mois en Afrique du Sud et je revenais rejoindre la famille pendant un mois.
Et là, c'était en quelle année?
Ça, c'était 2001-2002.
C'est à cette époque-là que les conflits avaient éclaté.
Exact, 2003. Mm-hmm. Alors, j'étais un peu découragé avec tout ce qui s'est passé. L'école, là où j'ai enseigné pendant une année et demie avant d'aller pour mon PhD, c'est l'actuelle université Shalom, était évacuée aussi, fermée. Alors, j'avais décidé de rester en Afrique du Sud. J'ai cherché du travail, j'ai eu du travail, et puis... Mais tous les appels et tout ce que je pressentais en moi, ça me disait, vous ne restez pas loin de chez vous. Vous devez rentrer pour reconstruire. Il est temps de reconstruire. Alors, je suis rentré à Bounia. Je suis passé par Beni. C'est à l'aéroport de Beni que je vais rencontrer quelqu'un qui venait de Harou, là où s'est tenu le conseil d'administration de l'université Shalom de Bounia, parce qu'ici, il n'y avait pas moyen de tenir une telle rencontre. Mmh. Et on m'a dit, félicitations, vous venez d'être nommé directeur général adjoint à cette époque-là. Le directeur général était malade, on a tué son enfant pendant ce conflit, il était très affecté, maladif, il voulait une transition d'une année, il cherchait quelqu'un, et il a cité mon nom, les gens n'avaient pas compris comment. Alors, ça marchait comme ça, de l'Afrique du Sud, je sens que je dois rentrer. Et ici, au conseil d'administration, je n'ai fait qu'une année et demie dans cette école. Les gens ne me connaissaient pas. Mmh. Mais lui, le directeur dit, Dieu m'a montré celui-là, celui qui va me remplacer. Mais 80% des membres du conseil d'administration ne me connaissaient pas.
Ils ne vous connaissaient pas?
Non. Mais
ils étaient d'accord.
Oui, on avait du respect pour le directeur. Et on a accepté. Alors, je n'étais pas contacté, personne ne m'a contacté. J'arrive à Beni, on m'informe. Je viens ici, à Bounia. L'école était évacuée. Et je me dis, Seigneur, tu m'as fait venir à Bounia. Je ne veux pas aller ailleurs, je reste. Je suis resté pour organiser le retour de l'école. Et un mois après, mon directeur est retourné aussi me rejoindre. On a fait 10 jours avec lui. Il a fait les AVC. Il est mort. Alors, je suis resté. C'est comme ça que je suis resté. J'ai commencé. C'était une petite école de 63 étudiants. Mais dans l'entretemps, l'église aussi se réorganise.
C'était quelle église à l'époque?
Ça s'appelle Communauté Emmanuel. Okay. Nous avons à peu près 300 églises ensemble, ça forme une dénomination dans l'ECC. Mm-hmm. Et l'église aussi se réorganise et l'église passe par une crise très profonde et on me demande si je peux aller aider aussi. Et je porte les deux à la fois. J'organise...
L'université,
et j'essaie d'organiser l'église au même moment. Alors, ça a été difficile. J'ai passé 9 ans à l'église, et puis j'ai passé 14 ans à l'école. Alors, l'école s'appelait Institut supérieur théologique de Bounia. De 2003, j'ai commencé à 2003, 4, 5. On a mené des recherches à 2005. Pour demander à nos ressortissants comment ils se sentaient, comment ils allaient par rapport à tout ce qui s'est passé. Et tout le monde s'est dit, on a besoin d'une école où on forme plus que les pasteurs. Que les défis sont tels que
Donc, si je comprends bien, Shalom, ouais. C'était uniquement la théologie.
Et c'était uniquement la théologie. Ça s'appelait Institut supérieur théologique de Brunei jusqu'à 2007. C'est alors qu'on va faire la transition. On devient Université Shalom de Brunei à partir de 2007. Et j'ai accompagné de 2007 jusqu'à 2017. Je me dis, ici, je m'arrête. Et puis, c'était fini. Moi, il y avait un jeune homme qui a commencé comme mon assistant. Je l'ai trouvé très intelligent. Je lui ai demandé de rentrer étudier. Il a fait son master. Il a fait le deuxième master. Il a fait son PhD. Et quand il terminait, j'ai dit au conseil d'administration, je crois que celui-là va me remplacer. Alors, il est revenu pendant une année avec moi comme directeur de cabinet. L'année suivante, j'ai pris mon congé sabbatique pour 6 mois. Je suis allé aux États-Unis, j'ai rédigé mon livre. Et quand je suis rentré, j'ai dit au conseil d'administration, je ne rentre plus dans mon bureau, je le laisse continuer. Et puis, il a continué, le conseil est venu, on l'a confirmé comme recteur. Et puis, bon, moi, j'ai...
Et pourquoi vous les avez lâchés? Parce qu'il y avait trop de responsabilités?
À l'église, je crois que j'étais épuisé. En fait, c'est que je n'aime pas travailler là où il y a la routine. J'aime travailler là où il y a les défis. C'est comme ça que j'arrive à l'Institut supérieur théologique de Bounia. L'école est évacuée et puis tout le monde est parti. Alors, je crois que les difficultés me donnent de l'énergie. Ça m'aide. C'est dans la difficulté que je sers le mieux. Alors, quand il n'y a plus de difficultés...
La routine, là, ça vous tue.
Hein? Ça me tue. Et ouais. À l'église, je me suis dit non. En fait, j'ai écrit pour dire, je vous donne 7 mois, on fait la transition. Ça a été très mal interprété par beaucoup, mais finalement, les gens ont compris que c'est bien. Alors, c'est la même chose à l'école, à l'université. J'ai eu le temps de préparer et pour sortir. Alors, j'ai créé aussi, maintenant, je suis directeur d'un institut de recherche.
Qui s'appelle Jérémie?
Centre Jérémie.
OK. Ouais. Pourquoi cette appellation, Jérémie?
Parce que je suis spécialiste du livre du prophète Jérémie. Et j'ai rédigé un mémoire. Et une thèse sur le prophète Jérémie. Je crois que je dois avoir écrit déjà 12, 13 articles sur le prophète Jérémie. Jérémie, c'est ce prophète qui a travaillé au moment où son pays était à déliquescence, comme notre pays actuellement. C'est lui qui a accompagné son pays jusqu'à l'exil. C'est lui qui a essayé d'aider les politiciens à réorienter toute la société, à aller vers la bonne direction. Ça n'a pas marché jusqu'à ce que le pays était détruit. Alors, je le trouve un bon prophète, comme un peu un politicien parmi les politiciens. Alors, c'est comme ça que j'ai intitulé Centre Jérémie, Institut de recherche sur la paix, la gouvernance et le développement.
Et le prophète Jérémie avait joué un rôle important dans la restauration d'Israël?
Beaucoup. Surtout, il a joué un rôle important pour accompagner Israël à aller en exil. Donc, c'est à l'époque du prophète Jérémie qu'on a détruit le pays. Et en fait, lui, quand l'ennemi est entré dans la capitale, le prophète était en prison. C'est l'ennemi qui a libéré le prophète, puisque le prophète disait... si vous ne vous convertissez pas, si vous ne changez pas vos voies, si vous ne pratiquez pas la justice, vous allez périr.
Et personne n'a prêché la repentance.
La repentance, la justice sociale. Personne ne l'a écouté, les gens se sont entêtés et le pays a été détruit. Alors, ce rôle m'intéresse. J'enseigne à l'Université Shalom un cours, la théologie politique. Et je mets beaucoup d'emphase sur le prophète Jérémie lui-même pour que mes étudiants comprennent les contextes dans lesquels nous sommes. Même ce semestre, j'enseigne le prophète Jérémie. Et je vois que mes étudiants aiment beaucoup ces livres.
Professeur, combien de publications, combien d'ouvrages avez-vous rédigé jusqu'à 6 jours?
J'ai 2 livres par moi-même et j'ai édité un autre avec un ami, ça fait 3. Il y a un 4e qui va sortir, je crois, d'ici décembre. Mais cette fois-là, ce n'est pas en théologie, c'est par rapport au conflit en Ituri. Au Centre Jérémie, on a mené des recherches sur terrain pendant 2 ans. Et on est en train de publier les résultats. D'ailleurs, le premier résultat, on l'a donné à Kinshasa, à l'hôtel Béatrice. Nous avons été invités par le gouvernement pour aller présenter les résultats de nos recherches. Alors, nous sommes prêts à publier cela.
Quels sont les différents titres? Parlez-nous des titres, des ouvrages que vous avez publiés.
Il y a le territoire de Mombasa. Ça, nous avons édité avec un collègue. Il y a un autre, c'est sur Jérémie, c'est un commentaire biblique. Mais le dernier que j'ai publié l'année passée, c'est en anglais. Reading Jeremiah in Africa, Biblical Essays in Socio-Political Imagination. Donc, lire Jérémie en Afrique, essai biblique dans l'imaginaire sociopolitique. J'ai lu Jérémie comme Africain, comme Congolais, dans le contexte politique qui est le nôtre. Et comment le message de Jérémie peut être pertinent pour les contextes sociopolitiques de notre pays.
Professeur, vous avez aussi une casquette politique. Vous étiez même candidat à gouverneur de la province de l'Ituri. Alors, parlez-nous de qu'est-ce qui vous a attiré en politique. Vous avez fait les lettres, vous êtes devenu pasteur, et puis la politique, vous avez eu un appel aussi dans ce domaine-là.
Alors, juste un tout petit peu, j'ai une étudiante, elle vient de l'Allemagne. Elle m'a posé la même question il y a une semaine. Elle est venue, elle a vu mon parcours, et puis elle m'a posé une question dans mon bureau. Professeur, qui êtes-vous? Vous êtes pasteur, vous êtes théologien, vous êtes professeur, vous êtes politicien, vous étiez candidat gouverneur.
Beaucoup de casquettes.
Oui, c'est vrai, j'étais candidat gouverneur. C'est arrivé une sorte de révolte. Je me suis dit, comme maintenant, nous sommes dans une année électorale, et bientôt, on va élire un gouverneur pour l'Ituri. J'ai vu le parcours de tous les gouverneurs qui ont précédé. Et je me suis dit, bientôt, il y aura un autre qui va venir. Et je m'excuse, quelqu'un qui va détruire encore au lieu de construire. Alors, je me suis senti interpellé. Nous nous plaignons beaucoup. Nous nous plaignons des autres. Nous ne faisons que critiquer les autres. Mais nous oublions que nous avons une part de responsabilité. C'est dans ce sens, j'ai essayé de passer en revue ma vie, et je me suis dit, je suis capable de diriger. Et puisque j'en ai la capacité, et rien ne m'empêche de le faire. C'est dans ce sens que j'ai partagé avec quelques amis, et il y en a qui ont dit, nous allons t'accompagner. Alors, donc, pourquoi je l'ai fait, mon parcours? Je crois que je suis tout simplement un citoyen responsable. Responsable. Ma part chrétienne me rappelle l'intégrité. Que ce que je fais, je dois le faire dans la justice, dans l'intégrité. Et je dois le faire pour les autres et non pas pour moi-même.
C'est quoi votre vision de la politique? Comment vous voyez les choses?
Depuis un certain temps, je commence à me dire que les choses ne marchent pas parce que les bonnes gens restent à la périphérie. Ils ne font que se plaindre. Il faut peut-être que de bonnes gens avancent au centre. Alors, ma vision maintenant, c'est de voir dans quelle mesure je vais avancer au centre de cette politique pour que je joue aussi ma part.
Et pour les prochaines échéances, vous serez candidat?
Je me prépare
dans tous les... Vous préparez déjà?
Je me prépare dans tous les sens. Je ne sais pas encore exactement quelle direction, mais je me prépare parce que c'est ma responsabilité en tant que citoyen.
Et quelle est votre vision du développement du Congo, particulièrement de la province de l'Ituri aujourd'hui qui traverse des moments difficiles, qui fait face à des cycles interminables de violences depuis 2017 et même bien avant? Comment vous voyez la pacification? Quelle est votre vision du développement de cette province?
Alors, c'est une bonne question. Je suis né ici, j'ai grandi ici. Je suis le fils de l'Ituri. J'observe, je regarde. Je pense que nous vivons la conséquence d'un échec de vie communautaire. Nous n'avons pas su vivre ensemble. Nous n'avons pas su vivre ensemble comme frères et sœurs dans le même espace. Je crois que nous avons oublié que même le plus petit, même le plus faible, il a sa place et que chacun doit trouver sa place dans cette province. Et je pense que ma vision, c'est encourager les grands, les forts à aller de l'avant pour la construction de l'Ituri, mais aussi être du côté des faibles, des pauvres, de ceux qui ne peuvent pas, et aussi à se lever et à bâtir ensemble. Je crois que c'est cet écart-là qui crée davantage de fossés entre le peuple et quand, un peu comme je l'ai dit, le prophète a condamné cela. Quand je suis grand, j'agrandis davantage mon domaine et au détriment des autres. Et les autres, quand finalement ils se sentent frustrés, ils réagissent. Et je crois que c'est ne pas avoir cette vision où je vous remets dans le prophète, dans le dernier livre que j'ai écrit, donc lire Jérémie en Afrique, ce que le rôle de dirigeant en Ituri devrait être celui de voir qui marche lentement, qui ne peut pas, et il faut le relever. Et que c'est rassurer aussi que le fort ne prend pas tout ce qui appartient aux pauvres. Et que tout cela nous amène là où nous sommes. Et,
il faut qu'il y ait une sorte de justice sociale.
Qu'il y ait une sorte de justice sociale. Et tout cela, il y a un langage itourien, non, c'est la jalousie, c'est si. Je pense que la jalousie, ça existe, c'est un sentiment humain, mais je crois que ça manque quelqu'un pour essayer de maintenir cet équilibre entre les communautés, entre les gens, et montrer à chacun sa responsabilité. Il y en a qui ont lâché, il faut leur montrer que vous ne pouvez pas rester en retard, vous devez vous mettre au travail. Il y en a qui sont en avance pour dire, quand vous êtes en avance, n'oubliez pas que vous êtes dans un espace qui appartient à tout le monde. Voilà un peu comment je vois, un peu de façon très globale, ce qui se passe chez nous.
Et comment vous voyez l'avenir de l'Ituri, professeur?
L'avenir de l'Ituri, il est très... je crois que c'est un avenir qui promet beaucoup. Je n'ai pas peur pour l'avenir de l'Ituri. Je voudrais parler peut-être des douleurs d'accouchement et tout ce qui se passe. Je crois qu'il faut un tout petit peu que chacun prenne conscience de ce qu'il est, du besoin de cette province que nous allons laisser à nos enfants. Alors, que chacun s'amende là où je dois m'amender. Je parle de dans tous les sens. De notre touritude, que nous puissions la construire ensemble. Les conflits, la guerre, tout ce qui se passe nous a montré que il n'y a pas quelqu'un qui peut construire seul ou vivre en Ituri seul sans les autres. Nous devons prendre conscience de cela et nous dire comment on va le faire ensemble. Dès qu'on arrive à cela, il y a des bons dirigeants qui savent que pour vivre ensemble, voici comment nous comporter. Je crois que ça va changer très vite.
Qu'est-ce qu'il faut promouvoir? Le pardon, l'acceptation de l'autre?
Il faut promouvoir le pardon, il faut promouvoir l'acceptation de l'autre, il faut promouvoir le sens du travail, il faut aider les gens. Et vous sentez aussi qu'en Ituri, quelquefois, les gens ont le sentiment que... il y en a qui profitent aussi de la faiblesse des Ituriens. Comme les Ituriens s'entre-déchirent, et il y en a qui viennent enfoncer davantage. Parce que, bon, eux, ils ne trouvent pas leur compte dedans, ils se disent, bon, nous en profitons quand vous vous entre-déchirez. Ça nous enfonce davantage. Je crois que les Ituriens doivent prendre conscience qu'il leur appartient, à eux et à eux seuls, de se mettre ensemble pour construire. Et on construit dans la justice, comme vous l'avez dit, dans le pardon, comme vous l'avez dit, et en regardant dans la même direction.
Bien, vous écoutez l'émission Grand Témoin qui reçoit aujourd'hui le professeur Bungi Shabako Kato, recteur honoraire de l'Université Shalom de Bounia. Professeur, nous acheminons petit à petit vers la fin de cette émission. Alors, un autre titre que vous aimez bien, c'est lequel, professeur?
Écoutez,
une chanson que vous aimez bien écouter.
Oh, j'aime une chanson en swahili. Ça, c'est ce qu'on chante à l'église. C'est le numéro 170 dans notre recueil de cantiques Nyimbo za Mungu. Ça s'appelle Nyimbo za Mungu. La chanson dit, je vous promets, Seigneur, que je vais vous servir dans la fidélité. Tiens-moi la main. Et c'est un peu ma prière de chaque jour. Pour dire, quand les mauvaises choses m'arrivent, tiens-moi la main pour que je résiste. Ni me aidi Yesu nitakutumikia, usini ache kamwe. Donc je vous promets Seigneur, je vais vous servir dans la fidélité. Mais servir ici, ce n'est pas seulement comme nous le voyons, comme évangéliste, comme pasteur. Je crois que c'est le servir là où je me retrouve.
Et dans mon domaine, dans mon secteur. Domaine,
servir, ça signifie servir les autres, justement. Et ça me rappelle tous les jours comment je sers. C'est dans la fidélité, dans l'intégrité. Il faut marcher. Beaucoup, en fait, je suis quelquefois trop critiqué.
Pourquoi? Mais, pourquoi on vous critique beaucoup? À cause de votre intégrité?
Je crois que il y a l'intégrité, mais je crois qu'il m'arrive d'avoir des positions assez tranchées par rapport à tout ce qui se passe dans notre province. Il y en a. Il y a des gens vous savez, dans ces contextes, il y a des gens qui ne veulent pas qu'on dise la vérité. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre une position comme « Allons-y ensemble, faisons des concessions, regardons les autres aussi », très souvent cela. Oui, mais le plus important, c'est justement qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis encore dans le droit chemin? Ça, c'est le plus important pour moi. Et ça, c'est le cantique que je chante souvent. Quand je suis un peu fatigué, découragé, je vais dans ma chambre et je chante. C'est une prière pour dire...
Est-ce qu'il y a une version française aussi de ce cantique-là?
Certainement. Ces chansons sont des traductions des cantiques en anglais. C'est ce que les missionnaires nous ont légué. Mais je n'ai pas le titre. Ça doit être en anglais plutôt. Et puis c'est une chanson que j'ai découverte récemment.
Et vous avez eu à travailler avec les missionnaires américains, protestants, c'est ça?
Beaucoup. J'ai beaucoup travaillé avec les missionnaires. J'aime travailler avec les missionnaires parce que j'aime les défier aussi. Ce que je n'ai pas dit, j'enseigne aussi dans une université aux États-Unis, à Duke. Et je serai là au mois de septembre. J'enseigne l'interprétation de la Bible en Afrique. Ils aiment ça, mon approche africaine. Donc, je les rencontre tout le temps, même avec les missionnaires avec qui on a travaillé ici. Ils sont là, j'ai beaucoup travaillé avec les missionnaires, oui.
Professeur, quelle est votre vision du développement de la RDC en général?
Merci beaucoup. Je crois que la RDC a pendant longtemps manqué des dirigeants qui aiment leur pays. Nous sommes défiés par tout ce qui se passe, défiés par nos voisins, défiés par la communauté internationale. Mais nous sommes presque paralysés, incapables de resserrer nos rangs et de trouver la solution et la voie de sortie. J'apprécie les efforts qui se font actuellement. Je vois beaucoup d'efforts, beaucoup de volonté. Et particulièrement, parlons un peu de ce conflit à l'est, au nord Kivu. J'ai aimé la position actuelle, par exemple, du président de la République qui dit « on ne négocie pas avec le M23, on ne fait pas ceci ». Je crois que nous avons... il me semble que le politicien congolais va en politique d'abord pour lui-même. Et ça, c'est notre grande faiblesse. J'ai déjà visité les États-Unis 15 fois. On a fait les élections du président Trump quand j'étais en congé sabbatique. Je vis des gens marcher. Alors, j'ai essayé de comprendre la politique américaine. Et ils se battent pour une vision et non pas pour un intérêt matériel, forcément. Et je crois que c'est là où nous devons aller. La vision, une vision pour un grand Congo. Et non pas une vision pour mon enrichissement personnel. Et une vision pour un Congo fort que nous allons léguer à nos enfants.
Merci, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci, professeur.
Un grand plaisir aussi pour moi d'être reçu dans cette émission. Merci.
Fidèles auditeurs, c'est par ici que s'achève ce magazine Grand Témoin qui a reçu aujourd'hui le professeur Bungi Shabak Okato, recteur honoraire de l'université Shalom de Bounia dans la province de l'Ituri. Jeudi, Daniel Kajama était au micro, Dieudonné Nyangassa à la mise en onde. Tout le plaisir était pour nous de vous servir. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.